La glaneuse que je rencontre aujourd'hui est Sana Zazari. Elle est née à Isfahan, en Iran, et arrive à Bruxelles à l'âge de 4 ans. Elle entame des études de scénographie à la Cambre, et son goût de la photographie l'amène peu à peu à l'image. Dans « Comme Iran », Sana s'y apprend à lire et écrire le persan, et non à comprendre l'idéologie enseignée.
Le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça.
Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole.
Nous étions à 23% de femmes.
Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique.
Ça, c'est du cinéma.
C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée.
On est la deuxième moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde.
Je suis née à Isfahan en 1981. Mes parents ont quitté l'Iran, j'avais à peine 4 ans, parce qu'en fait c'était en pleine guerre, Iran-Irak, et aussi c'était les premières années de la révolution islamique. Ma mère a décidé de quitter le pays parce qu'elle trouvait ça insupportable de vivre là. Et donc là on est parti en Turquie, on a vécu dans une maison communautaire pendant 6 mois, le temps en fait tous ces Iraniens réfugiés politiques cherchaient un pays d'accueil, voilà, une terre d'accueil. Et nous, ça a été la Belgique, Bruxelles. Mon père était ingénieur, il travaillait dans une banque et ma mère était infirmière accoucheuse. Donc après la révolution islamique, ma mère était infirmière et un jour, elle a été à l'hôpital pour travailler comme tous les autres jours. Et on lui a dit, ah mais attendez madame, là, il faut mettre un foulard maintenant, c'est terminé, les cheveux, tout ça. Et donc là, ma mère, elle est rentrée, elle a dit, elle s'est rendue compte que là, les mollahs avaient pris le pouvoir vraiment. Et donc à ce moment-là, elle a dit, moi je peux pas vivre dans un pays comme ça, avec les mollahs au pouvoir. Et donc voilà, on est parti. D'abord en Turquie. C'était tout des inconnus hein, dans cette maison. Et ensuite, quand on est arrivé à Bruxelles, ils connaissaient vraiment personne. Et tout à coup, ils se sont retrouvés mais vraiment avec rien. Et je pense qu'ils ont dû subir un peu des... En plus, quand on ne connaît pas la langue, je pense qu'ils ont été un peu humiliés dû à leur situation. Du coup, quand je leur pose des questions aujourd'hui, je sens que c'est un épisode... il ne faut pas trop en parler. D'ailleurs, je crois que mon premier film, Salom Isfahan, je l'ai dédié à mes parents. Je crois que c'est tout ce qu'ils ne nous ont pas raconté, finalement. Le fait de rentrer en Iran des années plus tard et de faire mon premier film à cet endroit-là, c'est forcément en lien avec leur histoire, la mienne, le fait que ça n'a pas été raconté. J'ai un souvenir de mon arrivée en Belgique et c'était pas facile parce qu'en fait je parlais pas la langue et que j'étais la petite étrangère quoi. Partout où j'allais, j'étais la petite brune, enfin je ressemblais à une petite indienne qui parlait pas français. Et franchement, moi tout mon rêve c'était vraiment juste de ressembler à tout le monde et de parler la langue parce que c'était vraiment gênant en fait. J'étais différente. Et il est possible, finalement, que le fait que je fasse du cinéma, et même de la photo avant, enfin, en tout cas, l'image, le cadre, ça vienne de de cette séparation, déjà, ou de cette distance, quoi, la distance de l'exil, en fait, qui fait qu'on cadre les choses avec une certaine distance. Je parlais le persan un peu, disons que ça faisait rire ma famille, parce qu'apparemment, je parlais un vieux persan, la langue avait évolué, et moi, je sortais des mots, où on me disait « mais tu parles comme nos grands-mères ». Donc j'avais en fait ramené avec moi des espèces d'expressions. Et nous, en Belgique, on continue à parler le persan hein, dans la maison. Mais le persan qu'on avait ramené du début des années 80 en Belgique et qui n'avait pas vraiment évolué. Et donc oui, quand je retournais là, la première fois j'avais 14 ans. Et puis après on y retournait souvent pendant les vacances d'été. Ces retours au pays sont hyper importants pour moi. Et c'est de ces retours au pays d'ailleurs qu'est venue l'idée de mon premier film « Salom Isfahan ». Parce que quand je retournais en Iran, j'arrêtais pas de faire des photos. Énormément de photos dans la rue, les gens, l'intérieur des cours de mosquée, de ma famille. Et c'est à travers ces photos, en fait, que l'idée du film, du premier film est venue. Je m'étais rendu compte qu'en Orient, alors je dis l'Orient, mais c'est très vaste, mais en tout cas qu'il y avait une manière différente de poser. Quand je demandais aux gens, quand je photographiais les gens, en fait, les gens tout à coup se mettaient à poser, alors qu'en Europe, c'était pas comme ça. Et je me suis dit, tiens, dans cette manière de poser, de se faire beau à l'image, il raconte quelque chose. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de Salom Ispahan, c'est-à-dire de photographier les gens et de filmer cette prise de vue. Et donc, ce n'est pas les photos qui sont importantes, c'est les petits gestes pour se placer dans le cadre, pour être beau. C'est ce moment-là.
Gestes, c'est ce que je veux dire. Je vais dire gestes. اونجوری شاهزاده ها و مقبور و کم حرف اینا.
En fait, ce dispositif me permet d'arrêter le temps quelque part. On arrête des gens pour les prendre en photo. Et en fait, il y a les pauses, il y a le clic-clac. Et petit à petit, il y a des dialogues. Mais au début, c'est vraiment, est-ce que je peux vous prendre en photo? Oui, non, clic-clac. Voilà. Et puis petit à petit, ah tiens, mais vous allez où? Voilà, c'est toutes des petites questions. Et puis, plus le film avance, plus les gens se racontent, quoi. Et plus le film avance, c'est ce qui s'est passé lors du tournage, plus, en fait, le pays était chamboulé par des manifestations. Pour la première fois après 30 ans de régime, les gens manifestaient, se révoltaient contre le régime. Et donc, moi, je me suis retrouvée, par hasard, vraiment, à faire mon premier film au moment où il y a les premières révoltes. 30 ans après la révolution. Donc moi j'ai fait la photographie à l'INRACI pendant mes secondaires. Et donc déjà à ce moment-là, quand je retournais en Iran, je faisais de la photo et j'apprenais la photo. Et là, le film, c'est vraiment des années plus tard. En fait, moi, je voulais faire des études artistiques et je ne savais pas trop quelles études artistiques faire. Puis j'avais été à la Cambre et j'avais passé l'examen d'entrée en espace urbain. Et en fait, au bout de quelques mois, j'ai changé de section. Mais je n'avais aucune idée de métier quand j'ai commencé mes études. Je me disais juste que ce qui me conviendrait le mieux, c'est des études artistiques. Et évidemment, j'aimais le cinéma, j'aimais la photo, mais j'aimais la peinture, j'aimais les romans. Alors pourquoi plus faire du l'un que l'autre? Ça, c'était... Si j'avais pu, j'aurais tout fait. j'avais des amis qui étaient un peu dans le cinéma, documentaire. J'allais à des festivals de films documentaires. D'ailleurs, c'est là que j'ai découvert le documentaire, c'est à l'USAS. Donc je m'étais retrouvée un été, par hasard, à un festival de films documentaires à l'USAS. Et j'avais trouvé le médium génial. Donc déjà, il y a différents moyens d'apprendre. Je n'avais pas fait d'école de documentaire, enfin de cinéma, mais rien qu'en regardant tous ces films et en écoutant les débats après, là, j'avais appris des choses. Et puis en discutant notamment avec mon ami Gabriel Van Der Pas, qui est réalisateur, je lui avais dit, tu sais, moi, à mon prochain voyage en Iran, je vais photographier les gens et je vais trouver une caméra et je vais les filmer en même temps. Et puis Gabriel m'avait dit, mais tu sais, tu peux demander une aide à l'écriture. Il m'a parlé du CBA. Voilà, cette histoire de dossier. Moi, je n'avais pas du tout pensé ni faire un dossier, ni faire un film d'ailleurs. Et donc, c'est comme ça, petit à petit, c'est les rencontres. Et je me rappelle quand j'ai commencé à écrire ce dossier de Salom Ispahan, donc on m'a dit, voilà, un synopsis, une note d'intention. Ça m'a paru être un langage familier. Je me suis pas dit, mais waouh, qu'est-ce qu'on me demande? Je me suis dit, mais oui. C'était facile, en fait. C'était pas... Moi, je venais avec tout mon background de photo, de scénographie, de tous les films que j'avais vus, les livres que j'avais lus. Je pense que tout ça permet, en fait, d'écrire tout simplement un projet. J'avais tout simplement commencé à suivre des cours de persan pour apprendre à lire et écrire le persan que je parlais depuis que je suis petite à la maison avec mes parents. J'ai commencé ces cours et pendant les premiers cours que j'ai eus, c'était des cours privés avec une professeure, une femme. Je prenais en fait des notes, mais c'était des notes pour un film. C'était pas des notes pour apprendre. Et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment faire un film de ça. Et donc j'ai arrêté les cours. Et là, ça allait devenir mon deuxième film. Donc, j'en ai parlé. Donc, j'ai commencé en fait à écrire le film, le projet de film, faire lire au producteur. Et voilà. Et c'est quand j'ai reçu les subventions et que le film a commencé que j'ai repris les leçons. Ruri. Chaiye
ایرانی. ایران. من در ایران به دنیا آمدم. زبان مادری من فارسی است.
Le point de départ, c'est que je m'étais rendu compte qu'à travers l'apprentissage de la langue, comme j'apprenais cette langue avec un manuel scolaire, mais que je n'étais plus petite, j'étais grande, tous les mots devenaient politiques. Le moindre mot, quoi, le mot pain, le mot eau. Et en fait, c'était un peu revenir aux mots, les premiers mots de la langue qu'on apprend. Papa, maman, le pain, l'eau. Et en fait, ces mots-là avaient une résonance politique, puisque la personne qui me l'enseignait avait fait la révolution. Et moi, j'apprenais, j'étais une enfant de la révolution. Donc, et puis, le manuel qu'on utilisait est un manuel d'avant la révolution. Donc, en fait, Ikom Iran, c'est j'apprends la langue persane à la lire et à l'écrire. Et en même temps, à la fin de ce manuel scolaire dans lequel j'apprends, ils expliquent la révolution aux enfants. Donc, aux enfants de première primaire, on leur apprend la révolution islamique, ce que c'est. C'est la dernière page. Et donc, mon film, c'était une espèce de leçon de persan, mais aussi une leçon de c'est quoi en fait une révolution.
Homme, femme, enfant de tout âge, caucasien, corpulence moyenne, peau blanche, pas basané, pas tatoué, pas grand, pas fort.
Pendant mes études, j'avais ce job où j'étais habilleuse des figurants de l'opéra. Et donc, je passais beaucoup de temps à habiller les figurants. Et puis, ils passaient sur scène et puis on ne les voyait plus. Les gens ne les regardaient pas. Et donc, la figure du figurant m'intéressait. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un film où le figurant, en le filmant, devient le premier personnage. Et que finalement, les gens sans nom, qui sont au fond de l'image, créent un dispositif qui renverse la pyramide et où les gens se retrouvent à l'avant de l'image et deviennent des personnages. Ça, c'était l'idée pour les figurants. Après, voilà, les figurants, c'est un film que... Enfin, c'est peut-être le seul film que j'ai fait où je dirais, si c'était à refaire, je le ferais autrement. Parce que ça a été très, très compliqué. J'ai suivi une dizaine de films avec... Ça a été, au niveau de la production, très compliqué. Donc, si c'était à refaire, je prendrais un seul film avec un groupe de figurants qui est là pendant très longtemps. Et je simplifierais vraiment le dispositif pour aller plus loin dans ce que je voulais raconter. Je voulais m'approcher des figurants pour montrer quelque part le peuple. Voilà, je voulais un peu renverser par le cinéma, parler de l'importance du... la manière dont les figurants sont importants dans l'image et représentent le peuple. Sans figurants, il n'y a pas de film, on n'y croit pas. Ben, c'est un peu le peuple... Dans une société, c'est la même chose, quoi.
Il y a Lisa qui va arriver, etc. La caméra va reculer et puis elle va rester uniquement sur Lisa, sur la comédienne principale, ok? Dès que la caméra est sur elle, vous devez toutes faire semblant de parler, mais il ne peut plus y avoir de son. C'est hyper important. Donc, moi, calmement. Allez, on y va. Mais calmement et faites attention, il y a un travelling. Non seulement on arrête de parler, mais en plus on ne touche plus à rien. Plus son plateau, plus c'est couvert. Donc la caméra n'est plus sur vous, donc en fait, vous n'existez plus.
Les figurants, c'est des gens qui passent énormément de temps à attendre qu'on vienne les filmer. Et donc moi, je me suis dit, mais puisque ce temps existe et que ces gens sont là, il faudrait prendre du temps pour aller leur parler à eux, qu'est-ce qu'ils racontent et tout ça. Et c'est ce temps-là que je n'ai pas su prendre dans mon film, puisqu'en fait, j'ai été sur trop de tournages et que... Voilà. Moi, par rapport à l'Iran, après mes deux premiers films, je n'ose plus trop retourner en Iran. Et oui, évidemment que quand il y a eu les événements là en Iran depuis 2 mois, c'est sûr que j'ai eu envie d'y être pour filmer ça. Mais en même temps, voilà, je pense que c'est pas ma place là pour le moment d'y être de toute façon. Je veux dire, ça fait... Moi, je suis plus retournée en Iran depuis Salam Isfahan. Donc voilà. Par contre, j'ai très envie de pouvoir y retourner et qu'on puisse un peu un jour avoir tous ceux qui ne peuvent plus retourner dans le pays parce que leur vie est en danger, qu'on puisse y retourner, quoi. Que ce régime tombe, quoi. Et puis là, je suis en fait tout à fait dans un autre projet qui se passe en Belgique. Ça fait un an et demi, deux ans que je suis dans l'écriture de ce film qui se passe au musée de Tervuren. C'est sur le récit des guides, sur le récit décolonial et comment est-ce qu'on construit ce récit décolonial, qui est pour moi une thématique primordiale aujourd'hui, quoi. Bon, le musée donne un canevas, hein, forcément, il y a un parcours, il y a des objets qui sont les mêmes, mais chaque guide, en fonction de son histoire personnelle, s'il a un lien avec l'Afrique ou pas, construit ce récit qui, en fait, n'existe nulle part. C'est un récit qui est complètement écrit par le guide lui-même et qui, au fur et à mesure des visites, évolue. Donc, c'est un récit qui est vraiment vivant et qui n'est pas dit à l'école, enfin, qui est pas, c'est pas dans les programmes scolaires encore. Donc, c'est ça tout l'intérêt aussi. C'est que la colonisation n'est pas encore dans les manuels scolaires à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, quelque part, les guides du musée du Tervuren, quand ils font ces visites des coloniaux, nous racontent quelque chose qui est inscrit nulle part et qui est important, quoi. Donc, c'est un peu pour ça que mon film a du sens. Je crois que si il n'y avait pas de lien avec la politique, je pense que je ne ferais même pas de film. C'est-à-dire que pour moi, tout film, même si demain je fais un film sur une histoire d'amour, hein, le fait de faire un film ou d'écrire un poème ou d'écrire un roman, je le vois de toute façon comme un geste politique. Donc à partir du moment où c'est une forme de résistance, c'est ça en fait qui m'anime, c'est ça qui anime ma création. C'est-à-dire que tout acte, tout geste, notre manière de vivre est politique forcément. Pour moi, elle est complètement liée, c'est la poésie et la politique, quoi. Je n'imaginerais à aucun moment faire un film qui ne soit que politique. Ça ne m'intéresserait pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le lien entre la poésie et la politique.
Vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur vos applications de podcast.